c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Eh bien, bonjour à vous, étant entendu que je vous souhaite un bon matin, une bonne journée remplie de petits bonheurs. Et puis, on fête aujourd'hui les Alains, et justement, le philosophe Alain disait... Le bonheur est une récompense à ceux qui ne l'ont pas cherché. Et il ajoutait, je vous souhaite la bonne humeur. Voilà ce qu'il faut offrir et recevoir. Voilà la vraie politesse qui enrichit tout le monde. Et d'abord celui qui donne. Voilà le trésor qui se multiplie par l'échange. On peut le cerner le long des rues, dans les tramways, dans les kiosques à journaux. Il ne s'en perdra pas un atome. Cette bonne humeur poussera et fleurira partout où vous l'aurez jetée.
Mettez comme moi votre bouche en cœur. Prenez un petit air détaché. Laissez tranquillement l'orage passer. La vie est si belle, il ne faut pas se tourmenter. Et ma ritournelle vous fera tout oublier. Vos soucis partiront simplement en chantant ce petit air charmant. Il y a des gens compliqués, des hommes humiliés, que tout désespère. Ils vont chercher à son lieu le bonheur que Dieu nous donne sur la terre. Quittez cette terre abattue et ne pensez plus à vos petites misères. Pour vivre heureux comme des rois, le moyen, croyez-moi, c'est de faire comme moi. Chantez la valse de la bonne humeur. Chantez la valse de la bonne humeur. Chantez la valse de la bonne humeur.
Elle vendait des cartes postales et aussi des crayons. Car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. C'est bête, hein?
Chantez la valse de la bonne humeur. La 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 la.
Mettez comme moi votre bouche en cœur.
La 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 la.
Prenez un petit air détaché.
La 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 la.
laissez tranquillement l'orage passer. La vie est si belle, il ne faut pas se tourmenter. Et Marie Tourmelle vous fera tout oublier.
Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. Et un beau jour, j'ai changé tout d'un coup. Je me suis réveillé ce matin de bonne humeur. Comme ça pour rien, j'étais content, surpris de n'avoir aucune idée noire. Je me suis habillé d'une grosse chemise à fleurs. Comme ça pour rien, j'étais content, sans savoir pourquoi, sans savoir comment. J'étais enfin guéri, sans savoir de quelle maladie. Bien sûr, on a plus 20 ans, on a des cheveux blancs, et l'angoisse de l'avouer. Mais de l'amour, pour son facteur, comme ça pour rien. Je me suis réveillé, de bonne humeur. Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. Et un beau jour, j'ai changé tout d'un coup. J'ai tout oublié. Tout oublié. Je me suis réveillé ce matin, dans tes bras, comme ça pour rien, j'étais content, j'avais enfin un bon karma. Je me suis baladé sur le manche de ma guitare, comme ça pour rien, j'étais content, surpris d'avoir autant d'espoir. Bien sûr, on a plus 20 ans, on a des cheveux blancs et l'angoisse de la bouée. Mais de l'amour pour son facteur, je me suis réveillé de bonne humeur. Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. Et un beau jour, j'ai changé tout d'un coup. J'ai tout oublié. Tout oublié. J'ai changé tout d'un coup. Et un beau jour, j'ai changé tout d'un coup. J'ai tout oublié.
Après Jacqueline, c'était Thomas Dutronc sur Radio Plus. Et oui, il faut toujours garder sa bonne humeur. Et justement, alors aujourd'hui, je pensais que nous retrouverions Jean-Louis Ouattet, président de l'Étrême Nature, pour notre rubrique « Saltant sur la planète ». Mais voilà, Jean-Louis est en train d'exercer à nouveau l'art d'être grand-père. Alors, bon, comme on ne maîtrise pas tout dans la vie, n'est-ce pas? Eh bien, il sera à nouveau avec nous la semaine prochaine. Alors, selon une étude de Santé publique France paru mardi 3 septembre, les polluants du quotidien, c'est-à-dire les parabènes, biphénols et autres, seraient présents dans l'organisme de tous les Français. Les enfants seraient particulièrement vulnérables, on en a déjà parlé justement longuement dans cette rubrique avec Jean-Louis, mais il faut savoir insister quelquefois car n'oublions pas que nous sommes consommateurs et que nos choix peuvent faire changer les choses. Mais pour cela, bien sûr, il faut être au courant et notre mission est de vous informer. Et il nous en parlera donc la semaine prochaine, mais déjà aujourd'hui, nous aborderons un petit peu le sujet rien que vous et moi. Alors Bertrand Trinel ne sera pas avec nous aujourd'hui, bah oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, il y a des jours où, puisque la fête de la tomate a encore une fois tenu toutes ses promesses, mais après, voyez-vous, il faut ranger ce à quoi se tient Bertrand aujourd'hui et nous le retrouverons donc lundi prochain. Et puis, c'est aujourd'hui la journée mondiale de sensibilisation au syndrome d'alcoolisation fœtale. Pour faire prendre conscience au monde entier les conséquences néfastes de l'alcool consommé pendant la grossesse, et aussi pendant l'allaitement. Les professionnels de santé de premier recours, c'est-à-dire les généralistes, les sages-femmes, les pharmaciens, les gynécologues, sont des prescripteurs pour la recommandation zéro alcool pendant la grossesse. Et justement, on en parlera avec le docteur Guy de Rognecourt. Voilà, bonne écoute sur Radio Plus. Et tous ces sujets, bien sûr, sont dans l'air du temps. Et puis dans l'air du temps aussi, cette information... Le Bureau européen des unions de consommateurs estime que les mascottes et les personnages de dessins animés sont trop présents sur des aliments pauvres en nutriments destinés justement aux enfants. Alors c'est pourquoi ils demandent aux distributeurs et aux entreprises alimentaires européennes de ne plus promouvoir leurs produits gras, salés ou sucrés par le biais de personnages que les enfants adorent. Alors maintenant, savoir s'ils seront suivis dans leurs souhaits.
Le loup d'ordinaire est méchant, il se nourrit tout le temps d'enfants grassouillets ou alors il avale des petits porcelets. Mais quand il tombe sur des lapins, il ne peut pas n'en manger qu'un, sa moyenne se situe entre 20 et 280. Ce loup là, je comprends pas, je sais pas qu'est-ce qu'il a. On dirait que c'est pas un loup, ni une chèvre, ni un chou. Loup, 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 loup ne vaut pas un clou. Loup, 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 loup ne vaut pas un clou, ni un copec, ça ne vaut rien du tout, un loup. Un loup se doit d'être enragé, d'avoir les babines retroussées, une gueule pleine de dents toute jaunie avec des bouts de persil. Il ne confond pas Rintintin, le chaperon rouge et les sept nains, il adore la viande crue, le couscous, les merguez de lapin. Je ne sais pas, il est un peu froid. Si ce truc-là est un loup, je veux bien me transformer en biniou. Loup, 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 loup ne vaut pas un clou. Loup, 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 loup ne vaut pas un clou. Ni même un dollar, ça ne vaut rien du tout, un loup. Ni même un dollar, ça ne vaut rien du tout, un loup. L'examiner, il aurait fallu l'ausculter, voir si par hasard il n'était qu'un agneau mal léché. Il aurait fallu faire ceci, il aurait fallu faire cela. Il fallait passer ce loulou-là à la loupe et voilà. Il fallait passer ce loulou-là à la loupe et voilà. Loulou, loulou, ne vaut pas un clou. Loulou, loulou, ne vaut pas un clou. Ni même un dollar, ça ne vaut rien du tout un loulou. D'ordinaire et méchant, il se nourrit tout le temps d'enfants et de jeunes de 7 à 17 et 77 ans.
Voilà, c'était San Severino sur Radio Plus. Alors, je vous disais tout à l'heure que selon une étude de Santé publique France, parue mardi 3 septembre, les polluants du quotidien, c'est-à-dire les parabènes, biphénols et autres, seraient présents dans l'organisme de tous les Français. Nous aborderons largement ce sujet la semaine prochaine avec Jean-Louis. Auparavant, je voudrais vous faire prendre connaissance d'une étude faite par le magazine Sciences et Avenir, parue déjà fin 2017, et ce sera donc une bonne introduction à ce qui sera dit la semaine prochaine. Et oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire. Alors justement, il faut savoir que il faut insister puisque dans les enfants sont particulièrement vulnérables à tous ces perturbateurs endocriniens comme on les appelle. Et à ce sujet, il faut savoir que donc l'enfance est en danger et développe une puberté précoce. Et oui, en France, plus d'un millier d'enfants présentent chaque année des signes cliniques de la puberté avant l'âge de 8 ans. De nouvelles études alarmantes confirment la responsabilité des perturbateurs endocriniens omniprésents dans l'environnement. Ce sont en France plus d'un millier de petites filles par an et 10 fois moins de petits garçons qui manifestent ainsi des signes cliniques de la puberté avant leurs 8 ans. Les pédiatres s'interrogent et s'inquiètent. En moins de deux décennies, le développement des seins chez les petites filles a été avancé d'un an, comme cela a notamment été documenté aux États-Unis ou au Danemark. Alors, une équipe de l'université de Copenhague a ainsi examiné en 2012 des petites filles dont les mères avaient travaillé dans des serres au cours du premier trimestre de leur grossesse, et ce afin d'évaluer les effets à long terme d'une exposition prénatale aux pesticides. Alors, les filles sont 10 fois plus touchées que les garçons, et il y a eu 1173 nouveaux cas. Il y a 1173 nouveaux cas par an et on compte 268 cas de puberté précoce pour 10 000 fillettes en France. Les filles sont 10 fois plus touchées donc que les garçons et beaucoup plus représentées dans la moitié sud. C'est l'étude de la base de données des remboursements de l'assurance maladie qui a permis d'obtenir ces chiffres. Alors, avec 117 nouveaux cas par an, alors si les garçons sont beaucoup moins atteints par le phénomène, eh bien, les incidences les plus fortes se trouvent dans les mêmes zones géographiques que pour les filles, ce qui laisse penser à une cause commune, telle que la forte présence de perturbateurs endocriniens liés justement aux pratiques agricoles. Alors, en temps normal, l'hypothalamus envoie un signal à l'hypophyse pour déclencher la puberté chez la fille. Et voilà, mais donc, ça se passe pas toujours comme ça, malheureusement. Chez les filles, vous le savez, les ovaires produisent des hormones qui provoquent le grossissement de la poitrine et le début des règles. Eh bien, perturbateurs endocriniens et surpoids chamboulent
tout ce circuit hormonal. Résultat, la puberté se produira plus tôt ou plus tard que la normale. Chez les garçons, les œstrogènes présents en quantité moins importante jouent aussi un rôle dans la puberté, mais les perturbations induites sont plus difficiles à établir. Et alors justement, comme le dit cet article, comme le montre cet article, eh bien ça se passe ça justement dans le sud. Incroyable, j'ai été étonnée à la lecture de cet article que nous ne soyons pas vraiment atteints dans le nord. Alors il faut quand même savoir que les perturbateurs endocriniens, non seulement elles gênent elles déclenchent une puberté précoce, mais en plus elles déclenchent aussi la prise de poids et l'obésité. Qu'on se le dise et qu'on y réfléchisse.
C'est du son qui se parfume.
C'est quoi l'émotion?
C'est l'âme qui s'allume.
C'est quoi un compliment?
Un baiser invisible.
Et la nostalgie?
Du passé comestible.
C'est quoi l'insouciance?
C'est du temps que l'on sème.
C'est quoi le bon temps?
C'est ta main dans la mienne.
C'est quoi l'enthousiasme?
C'est des rêves qui militent.
Et la bienveillance?
Les anges qui s'invitent.
Et c'est quoi l'espoir?
Du bonheur qui attend.
Et un arc-en-ciel?
Un monument aux vivants.
C'est quoi grandir?
C'est fabriquer des premières fois.
Et c'est quoi l'enfance?
De la tendresse en pyjama.
Mamie, papa, la vie, c'est quoi?
Petite, tu vois, la vie, c'est un peu de tout ça, mais surtout c'est toi, c'est toi.
C'est quoi le remords?
C'est un fantôme qui flâne.
Et la routine?
Les envies qui se fanent.
C'est quoi l'essentiel?
C'est de toujours y croire.
Et un souvenir?
Un dessin sur la mémoire.
C'est quoi un sourire?
C'est du vent dans les voiles.
Et la poésie?
Une épuisette à étoiles.
C'est quoi l'indifférence?
C'est la vie sans les couleurs.
Et c'est quoi le racisme?
Une infirmité du cœur.
C'est quoi l'amitié?
C'est une île au trésor.
Et l'école buissonnière?
Accroche pas ta Pythagore.
C'est quoi la sagesse?
C'est Tintin au Tibet.
Et c'est quoi le bonheur?
C'est maintenant ou jamais. C'est un peu de tout ça, mais surtout c'est toi, c'est toi. Dans tes histoires, dans tes délires, dans la fanfare de tes fous rires, la vie est là, la vie est là. Dans notre armoire à souvenirs, dans l'espoir de te voir vieillir, la vie est là. La vie est là.
C'était Aldebert, et oui, c'est beau l'enfance, alors ne la gâchons pas. Alors justement, je voudrais rajouter à cet article que pour cette puberté précoce, c'est bien que les coupables sont tous désignés, ce sont bien entendu les perturbateurs endocriniens. Mais alors l'action néfaste justement de ces molécules chimiques a été démontrée à de nombreuses reprises sur les animaux. On ne peut pas nier que les perturbateurs endocriniens affectent l'âge de la puberté, mais le démontrer pour une substance précise est un véritable défi. Et il y en a bien évidemment qui n'y croient pas encore. La liste est sans fin. Présente dans l'air que nous respirons, dans notre alimentation, dans la vaisselle en plastique, les produits de beauté, certains de nos vêtements, les couches culottes ou les lingettes pour bébés, ces substances se retrouvent au final dans les cheveux des enfants. Et le magazine 60 millions de consommateurs, édité par l'Institut national de la consommation, s'est livré en avril à une analyse des cheveux de filles et de garçons âgés de 10 à 15 ans. Résultat, jusqu'à une cinquantaine centaines de perturbateurs endocriniens différents ont pu être retrouvés sur un seul et même enfant.
C'était avant qu'il ne contrôle plus rien. La terre, les océans, les robots et la faune. La faune vivait en souffrance, côtoyant l'humain. A bien coupé la branche de son destin. Plus d'eau pure, de forêt, d'arc-en-ciel, un soleil sans avant qu'une à une les saisons meurent, que disparaissent les abeilles, les oiseaux, les couleurs. Avant du sol pousser des plantes, des millions de fruits et de fleurs, des gens râlaient comme sur le temps et les peurs. C'est trop chaud ou trop froid, mais demain, qu'est-ce qu'il y aura? Il ne savait pas.
Paul Personne, c'était pas trop mal avant, enfin bon. Voilà, alors toujours et encore dans un souci de respect de l'environnement et à l'absence de Bertrand Trinel, occupé à tout remettre en place après la fête de la tomate, qui comme chaque année a connu un succès mérité. Et oui, en plus, il a eu la chance d'avoir du soleil, il a fait beau. Il y avait de nombreux visiteurs, mais aussi de nombreux de stand. Ça s'est super bien passé. D'ailleurs, peut-être que Bertrand Trinel nous en reparlera la semaine prochaine. En attendant, justement, toujours dans le respect de l'environnement, aujourd'hui, je vais vous parler très très rapidement, car on en parlera très longuement avec lui prochainement, de la permaculture.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Si tu veux être heureux toute la vie, dit le proverbe, fais-toi jardinier. Chaque semaine, Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, vous aide à cultiver le vôtre 100% nature.
Eh bien voilà, oui Bertrand, nous le retrouverons la semaine prochaine. Alors, vous savez que la permaculture favorise la coopération entre les plantes et cette méthode fait voisiner des cultures compatibles. Elle pourrait être une solution, figurez-vous, pour nourrir une planète surpeuplée. Et d'ailleurs, un peu partout en France, eh bien des écoles et des maisons de retraite proposent désormais aux élèves ou aux résidents de faire pousser des légumes sur d'étroits espaces. Alors dans la permaculture, en France, une étude réalisée sur quatre ans a conclu que cette méthode était au moins aussi rentable que l'agriculture conventionnelle. Nous pourrions largement améliorer cette technique si nous comprenions mieux les relations chimiques et physiques entre les espèces végétales. Parce qu'il faut savoir qu'il y a autant de méthodes que de permaculteurs. Et donc, je vous l'ai dit, on en reparlera très prochainement avec Bertrand.
Permettez-moi d'intervenir, permettez-moi même d'en finir avec les on dit les quand je veux, car dans la soupe il y a un cheveu. Je ne suis pas du genre plaintif, malgré un physique de sportif, mais vient un moment où la bête se réveille au fond de ma tête.
Allez!
C'est un fléau, une maladie, un staphylocoque mal fini, un gros microbe en liberté qui passe et repasse sous votre nez et qui s'impose sur toutes les tables. Dans sa jolie barquette jetable, on y plongerait bien les deux pieds, ça ferait des mules climatisées. Hypothèse. Parlons gastro, gastronomie. Si je mange, je veux être puni. Est-il possible de rendre un peu notre repas plus harmonieux? Il est certain que c'est rassurant, toujours les mêmes ingrédients. Imaginez qu'une salade verte arrive ici, ce serait de l'alerte. L'équilibre d'un musicien est très fragile, on le sait bien. Le ministère de la culture est obligé de prendre des mesures. L'austérité d'une vie rythmée par des repas prédigérés semblait manquer à notre décor. Il y en a qui disent qu'on veut notre mort.
Eh bien, c'était le groupe Mes Souliers Rouges. Alors justement, depuis le début de l'émission, on parle beaucoup santé. Eh bien, on continue à parler santé avec le docteur Guy de Regnaucourt. On va parler santé et aussi médecine. En effet, comme chaque 9 septembre depuis 1999, c'est aujourd'hui la journée mondiale de sensibilisation au syndrome d'alcoolisation fœtale. Une journée qui a pour but de rappeler dans le monde entier les conséquences néfastes de l'alcool consommé pendant la grossesse et l'allaitement. Alors, Santé publique France a publié des estimations nationales de l'alcoolisation fœtale chez le nouveau-né et sur la consommation d'alcool chez les femmes enceintes et prône bien évidemment le zéro alcool pendant la grossesse afin, on le comprend, de préserver la santé du bébé à venir. Sur Radio Plus, nous contribuons à cette campagne d'information dont les acteurs majeurs sont les professionnels de santé. Docteur Guy de Regnaucourt, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe, bonjour aux écouteurs.
Alors, tout au long de l'année, des affiches, des dépliants sont mises à disposition du public et viennent compléter une campagne média très importante déployée dans les titres de la presse féminine, parentale, people et dans les quotidiens gratuits en métropole et aussi en affichage dans les départements d'outre-mer. Alors, cela signifie-t-il, docteur, que le problème est majeur ? Et d'ailleurs, y a-t-il des chiffres qui en disent long ?
Oui, bien sûr, le problème est majeur, car les désordres, les conséquences sont énormes. Et vous savez que depuis le week-end est organisé ce qu'on appelle le SAFTON, hein, la surveillance de l'alcoolisation fœtale. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. En France, il y a 1,3 pour 1000 sur naissance vivante de troubles du comportement ou de troubles physiques dus à l'alcoolisation fœtale. Pour tous les pays occidentaux, c'est 9 pour 1000. Et il faut savoir que 8000 enfants par an sont atteints en France de ces troubles consécutifs à l'alcoolisation fœtale. Il faut savoir d'emblée que l'alcool est donc tératogène, c'est qu'il entraîne des troubles de la formation fœtale et embryonnaire, et que ces troubles sont irréversibles. Et ils vont coûter la somme modique pour la France de 10 milliards d'euros par an. Alors, donc, j'insiste sur le zéro alcool, car l'alcool que la maman boit passe directement chez le fœtus qui ne métabolise pas. D'accord ?
Alors, justement...
Je vais vous donner encore quelques chiffres, oui, si vous le permettez. Pour avoir une malformation grave, il faut que la maman consomme 6 verres d'alcool par jour, quel que soit l'alcool. Pour avoir des retards de croissance intra-utérins, 3 verres par jour, j'oserais dire, suffisent, mais ils sont de trop. Pour une baisse du quotient intellectuel, 2 verres par jour. Excusez-moi tous les chiffres, mais il faut que vous le sachiez. Les troubles du comportement, c'est pour 3 verres par jour. Il n'y a pas de trouble, dit-on, et là je le mets entre guillemets, si la maman ne consomme pas plus de 7 verres d'alcool par semaine. Mais j'ai bien dit zéro alcool. Et tout cela est influencé par le génotype du fœtus, garçon ou fille, par le rôle social des parents, selon leur, je dirais, degré d'affinité sociale. Vous voyez que c'est catastrophique.
Oui, et puis c'est très très inquiétant quand même. C'est vrai que on s'imagine que bon, docteur de Regnaucourt, mais alors justement, quelles sont les conséquences de l'alcool sur le fœtus? Vous venez d'en parler, mais
oui, je viens d'en parler, mais je vais essayer de détailler. Les conséquences sont de plusieurs types. Il y a des atteintes crânio-faciales, il y a des retards de croissance, les malformations, j'en reviendrai en même temps après, et il y a surtout des troubles neuro-comportementaux. Pour les atteintes crânio-faciales, il faut que vous ayez un peu le visage d'un enfant qui va naître. Ses fentes oculaires sont devenues étroites. La racine du nez est plate, inversée en hameçon. Les narines sont éversées. L'étage moyen facial est en ce qu'on appelle hypoplasie, c'est-à-dire qu'il n'est pas terminé, si j'ose dire. La distance entre le nez et la lèvre supérieure est allongée. Elle est convexe. Elle est lisse, il n'y a plus de sillon médian, et on appelle ça des lésions en fer de montre, car cette lèvre supérieure est trop fine, trop étroite. Le menton, j'ai bien tout terminé, est petit, il est en retrait, rétrognathe. On parle des fois d'une troisième paupière, c'est qu'il y a un dédoublement de la paupière, et il y a la distance entre les yeux eux-mêmes, droite-gauche, qui devient réduite. Vous voyez que les conséquences crânio-faciales peuvent être catastrophiques. Deuxièmement, je peux continuer ?
Oui, tout à fait.
Retard de croissance. Il y aura une déficience à la fois cérébrale, une déficience visuelle, une déficience auditive. Ces deux déficiences peuvent aller entre 30 et 130 fois supérieures à la normale. Mais si l'alcool apparaît plus tard, non pas dans le premier trimestre, mais dans la deuxième partie de la grossesse, ce retard de croissance, heureusement, je vais dire, sera harmonieux. Et enfin, on considère que tous ces enfants qui ont subi l'alcoolisation fœtale ont une baisse de leur morphologie, c'est-à-dire de la taille, du poids et du périmètre crânien. J'en ai dit beaucoup déjà. Hein.
Tout à
et
fait.
Je termine avec les troubles comportementaux qui vont être, eux, majeurs, parce que durer toute la vie, c'est irréversible. Il y aura un retard mental, il y aura un quotient intellectuel faible, ces gens vont avoir un comportement social d'impatience, ils seront irascibles, je dis comme ça. Ils sont hyperkinétiques, c'est-à-dire qu'ils ont des mouvements toujours ultra rapides. En plus, quand ils seront à l'école, quand ils seront dans leur métier, ils auront une baisse de l'attention. Et enfin, pour apprendre à travailler, ils auront une baisse des possibilités d'apprentissage. Je veux dire que, encore une fois, catastrophique, le tableau est très noir.
Mais alors justement, on insiste bien sur le fait que c'est irréversible, c'est-à-dire que ces enfants, ces nouveau-nés, qui deviendront enfants, puis adolescents, puis adultes, auront forcément des séquelles qu'ils porteront toute leur vie. Hein.
Exactement. Et donc, pour essayer de détailler, au fur et à mesure qu'ils vont grandir quand même, il n'y a pas de souci, les troubles crânio-faciaux vont s'atténuer au dépens de ce qu'on appelle une hypertrophie, c'est-à-dire qu'ils vont ce qu'ils ont perdu en petitesse va redevenir important. Ils vont développer plus des grosses lèvres, un gros nez, etc. C'est curieux. Ils ont un risque important de fente labiale. Vous savez ce que c'est, hein, un fente labiale, hein, d'accord. Et surtout, les troubles du comportement persistent toute la vie, ainsi que les petites lésions cérébrales qui sont une diminution, excusez-moi d'être trop médical, de la substance blanche, donc de la matrice cérébrale.
Alors, docteur de Regnaucourt, on parle de l'alcool ingurgité durant la grossesse et on insiste durant toute la grossesse, mais après l'accouchement, les mamans qui allaitent, et chacun connaît maintenant les bienfaits de l'allaitement maternel, eh bien ces mamans donc doivent bien sûr rester sobres, quoique l'adjectif est mal choisi, et nous verrons pourquoi après avec vous docteur. On va plutôt dire que ces mamans qui ont la chance de pouvoir nourrir leur bébé au sein doivent absolument continuer à se priver d'alcool.
Exactement, parce que vous savez que l'alcool va passer dans le lait, dans ce le colostrum, directement, hein, l'alcool est en quantité égale, aussi bien au niveau du lait de la maman, que le bébé va prendre, que du plasma, c'est-à-dire du sang. Le bébé ne métabolise pas l'alcool, parce que son foie est appelé encore à évoluer, le foie est immature. Ce qui entraîne, par exemple, si la maman a bu un verre d'alcool à telle heure, si elle veut allaiter, eh bien non, il faut qu'elle attende au moins une heure pour que l'alcool dans le sang, c'est-à-dire dans son lait, soit diminué, voire disparu, selon ses possibilités, ses capacités d'élimination.
Alors,
je peux continuer ?
Je vous en prie.
Voilà, l'allaitement, donc, chez une maman alcoolisée, va provoquer des troubles hépatiques, des troubles du comportement. Il va y avoir même chez la maman une difficulté à allaiter le bébé, car l'éjection du lait par le mamelon va devenir difficile. Et surtout, on en parle tout doucement maintenant, mais c'est peut-être un peu difficile, on conseille de faire un éthylotest, des bandelettes, sur le lait qui sort du mamelon. Voilà, vous voyez que là aussi, allaitement égale zéro alcool.
Et justement, alors j'employais tout à l'heure le terme sobre, mais je crois qu'il faut bien insister sur le fait que durant la grossesse et l'allaitement, la sobriété ou la modération ne suffisent pas, car la recommandation est zéro alcool. Alors, le slogan « un verre ça va, bonjour les et de trois verres, bonjour les dégâts », ce n'est plus pas d'actualité dans ce contexte. Et les mamans doivent donc comprendre que pendant leur grossesse, il est vivement recommandé l'arrêt complet de la consommation d'alcool. Et il est également important de stopper la diffusion de mauvais conseils et de tordre le coup à des idées reçues. Une distinction est par exemple opérée entre alcool léger et alcool fort, entre consommation occasionnelle et quotidienne. Une autre idée fausse consiste également à croire que la consommation d'alcool présente un risque uniquement au cours du premier trimestre de la grossesse, ou encore que la bière favorise l'allaitement, parce que même à faible dose, l'alcool consommé par les femmes enceintes a une incidence sur le développement du bébé.
Effectivement, quand elle boit pendant le premier trimestre de la grossesse, les troubles, les malformations crâno-faciales vont apparaître, ainsi que des troubles squelettiques, musculaires et sur les organes, ce qu'on appelle nous médecins les viscères. Si la maman boit pendant le deuxième et le troisième trimestre, les malformations, les troubles mentaux vont apparaître. Enfin, je l'ai dit déjà la fois tout à l'heure, sur le système nerveux central, c'est la substance blanche, la matrice même cérébrale, qui va être en diminution. Donc, vous voyez qu'il faut faire attention.
Bien sûr. Alors, docteur de Regnaud-Courc, bon, disons-le, certaines personnes auront sans doute besoin d'aide et d'accompagnement par des professionnels expérimentés dans ce domaine. Alors, pourront-elles se rapprocher d'une structure spécialisée ?
Oui, il y a ce qu'on appelle l'association Vivre avec le syndrome d'alcoolisation fœtale. Cette association donne des brochures, prend des contacts avec les patients, avec les gens qui vont entourer ces gens, et elle a un site internet, d'accord ? Alors, il faut connaître aussi plusieurs sites internet, c'est alcoolassistance.net, c'est soifdevie47.com, je ne sais pas si ils auront le temps de noter tout cela, sinon vous le notez et vous pourrez le redonner à vos auditeurs, c'est saffrance.com, voilà le site du syndrome d'alcoolisation fœtale, et bien sûr les mamans, les futures mamans, doivent se rapprocher, bien sûr, des membres de la famille, des amis, du corps médical, du corps paramédical et du corps social, voilà.
Et n'oublions pas que la santé de l'enfant, c'est quand même quelque chose de très très important. Alors, docteur de Regnaud-Courc, merci. Et justement, pour conclure, puisqu'on parle d'internet, on peut peut-être inviter les futurs parents qui ne sont pas convaincus à se rendre sur internet pour vérifier et constater les séquelles d'une alcoolisation fœtale sur l'enfant, c'est-à-dire avoir des photos de ce que vous nous avez décrit. Il suffit par exemple de taper dans un moteur de recherche alcoolisation fœtale et photos, et là, bon, ils seront édifiés, ils verront à quoi pourrait ressembler leur bébé.
Exactement. Et je voudrais terminer en vous remerciant pour l'attention que vous me prêtez, que mes auditeurs vont prêter. C'est très important. C'est la vie. La vie, c'est un don extraordinaire qu'il ne faut pas gâcher. Et je voudrais simplement faire une toute petite parenthèse. C'est de dire aux mamans, aux futures mamans, que la bière pour avoir un bon lait, c'est de la blague.
Oui, on s'en doutait, c'est vrai.
Voilà.
Merci, docteur de Regnaud-Courc, merci.
Et
à très bientôt, sans doute, sur cette antenne. Merci.
Exactement.
En tout cas, merci bonne d'avoir journée. Participé aux côtés de Radio Plus à cette sensibilisation qui, comme vous l'avez dit, est très, très importante. Merci à
voilà.
vous.
Merci.
Au fond de ma bouteille, un petit diable veille, pas plus gros qu'une abeille, plus noir qu'une corneille, et sa voix qui zézeille, susurre à mon oreille, les plus sales conseils, déguisés en merveille. Un petit diable veille, au fond de ma bouteille,
me fait impératrice, et me donne un royaume, de sentiments factices, d'ivresse polychrome. Et pour guider mes pas, j'ai de nobles amis, Lady Margarita et Miss Bloody Mary. Et quand mes courtisans me promettent le ciel, je les crois vraiment quand ils disent que je suis belle. Mais mais ce ne sont que des ombres, et mon royaume sombre dans un méchant sommeil au fond de ma bouteille. Au fond de ma bouteille, un petit diable veille, pas plus gros qu'une abeille, plus noir qu'une corneille, et sa voix qui s'éseille susurre à mon oreille les plus sales conseils déguisés en merveille. Un petit diable veille au fond de ma bouteille, il me fait oublier qui je suis et pourquoi je me donne à aimer le bourreau et la croix. Je ne connais que trop le nom des assassins, Seigneur de Curaçao et Monsieur Marasquin. Et quand mes courtisans me brûlent à petit feu, je les crois encore quand ils disent que j'ai vu mieux. Mais le miroir se brise et je vois sans surprise une petite vieille au fond de ma bouteille. Diable goguenard, un Satan dérisoire qui enfonce au hasard les clous du désespoir.
Un petit diable veille au fond de ma bouteille.
Au diable ce bavard et ses belles histoires, au diable ses merveilles et ses mauvais conseils.
Un petit diable veille au fond de ma bouteille.
Comme si j'allais croire ce que ce diable noir susurre à mon enfant.
Charmant, sauf qu'il n'a pas l'air au courant. Quand il m'a dit lubrique, viens dans mon lit, chérie. Les carottes étaient cuites. Et d'ailleurs, moi aussi. 2 heures plus tard, là, ça me vexe. J'étais déjà son ex et bourré de complexe.
À jeun, tu ne vaux rien. Oui, mais sous, tu peux tout. Je fais la gueule, je bois et j'ai la gueule de bois.
C'est bien ma veine, pour une fois que j'avais tiré les bonnes cartes. Il aurait tout quitté pour moi, à part sa femme et son appart. Il avait le nez grec et le bassin parisien. Mais c'était un blanc-bec, un barbare, un bourrin. Dans la vie, par définition, il y a beaucoup de porcs et très peu de jambon.
À jeun, tu ne vaux rien. Oui, mais sous, tu peux tout. Je suis pas bégueule, je bois et j'ai la gueule de bois.
Faut pas se noyer dans une goutte d'eau quand il reste encore du porto. Pas question d'avoir la pression ou alors avec du picon. Moi je sais rester zen et presque pas trop speed. Mais quand la coupe est pleine, fatalement, je la vide. Car la clé de la réussite,
c'est que c'est les grands crus qui font les grandes cuites. À jeun, tu ne vaux rien. Oui, mais sous, tu peux tout. Je fais la gueule, je bois et j'ai la gueule de bois.
Eh oui, moi dans la vie, j'ai tout.
Eh oui, justement, avec modération, bien entendu. Par contre, on peut consommer De la musique, autant qu'on veut, cela vous met de la bonne humeur plein la tête, ce qui est excellent pour la santé. Je vous propose de me retrouver tout de suite pour, tout de suite après la pub, pour Kaléidoscope, sa musique et ses chansons, et ses découvertes aussi.